Bonjour Gaspard Ganser.
Bonjour.
Nous sommes à peine plus d'un mois du premier tour des élections municipales. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, donc tête de liste de Parisiennes, Parisiens. Vous êtes actuellement autour de 2% dans les intentions de vote. Est-ce que vous pensez toujours, c'est une expression que vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à employer, mais que vous allez créer la surprise?
Oui, je le pense. Plus que jamais, je ne vais pas le faire tout seul d'ailleurs, parce qu'on est toute une équipe, plus de 500 candidats, 2500 personnes dans le mouvement. Ça fait plus de 2 ans qu'on est lancé, on est dans tous les arrondissements. Et c'est une élection qui joue d'ailleurs au niveau local, dans chacun des quartiers. Oui. Les sondages veulent toujours dire quelque chose, hein, donc je ne vais pas rouler des mécaniques en vous en croire qu'en réalité je suis à 30%. Mais en réalité, d'un arrondissement à l'autre, moi je suis candidat dans le 15e par exemple, on peut créer des surprises et rassembler derrière nous au premier ou au deuxième tour.
Vous ne pensez pas que l'une de vos propositions phares, en l'occurrence supprimer le périphérique parisien, a donné à votre candidature un caractère un peu fantaisiste ?
Je ne sais pas, en tout cas, elle a fait connaître ma candidature, c'est une certitude, parce que je pense que c'est l'idée peut-être qui a marqué le début de cette campagne, la construction du Grand Paris. Je vois que d'autres aujourd'hui s'intéressent à cette question de la construction de la métropole. C'est quelque chose qu'on mettra en 20 ans, en associant les communes voisines, les habitants, et qui transformera profondément la cité. Parce que la question qu'il faut se poser au fond, c'est est-ce qu'on veut garder un Paris tout petit ou est-ce qu'on veut construire Paris en grand ? Moi, je pense que je veux construire un Paris en grand. Mais il n'empêche que avant de détruire et de transformer le périphérique, il y a d'autres questions urgentes à régler, la propreté, la sécurité, le logement, parce que c'est ça dont nous parlent les Parisiens dans les 300 réunions d'appartements que j'ai pu faire depuis 2 ans.
Et pourtant, on a l'impression aujourd'hui que la campagne à Paris, c'est uniquement plus écolo que moi, tu meurs.
Oui, j'ai l'impression que tout le monde se dit écolo. J'ai même vu que les socialistes et Anne Hidalgo avaient décidé de se repeindre en vert. Ils ont des tracts verts, ils disent l'écologie en action. Moi, je crois que la priorité, elle est tout autre en réalité. Bien sûr qu'on est tous écolos, mais on va pas sauver l'Australie, les incendies d'Australie depuis Paris. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord agir pour que la plus belle ville du monde ne soit pas la plus sale, que la plus belle ville du monde ne soit pas la moins sûre, que la plus belle ville du monde ne soit pas la plus chère. Donc moi, je pense que la priorité, c'est la vie quotidienne, c'est restaurer l'ordre, faire preuve de fermeté pour garantir la sécurité et la propreté dans cette ville.
La priorité, c'est de planter des arbres, de créer des espaces verts ou de permettre aux gens de vivre dans la ville en se logeant à des prix décents. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur de Paris, tous ceux qui habitent cette ville le savent, c'est le prix de l'immobilier, que ce soit en location ou à l'achat.
Bah, il est totalement délirant, le prix de l'immobilier.
Il est fou.
Plus de 10 000 euros du mètre carré, mais en réalité, ça, dans certains quartiers, ça va à 15 000 euros, 20 000 euros du mètre carré. Résultat, les familles, notamment les familles de classe moyenne, ne peuvent plus habiter dans cette ville. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une action résolue, déterminée, pour agir dans le domaine du logement et pas simplement être spectateur et dire on ne peut rien y faire. Parce que le maire de Paris peut faire beaucoup de choses dans le domaine du logement. Il a quasiment plus de pouvoir que Brejnev sous l'Union soviétique, si vous me permettez. Il maîtrise le foncier grave au PLU, il délivre les permis de construire, il peut préempter, il peut investir, il peut faire beaucoup de choses. Et Anne Hidalgo nous dit non, je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Si, on peut faire beaucoup de choses, comme on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la propreté, qui est un domaine dans lequel la maire de Paris, le maire de Paris, dispose de la plénitude de la compétence pour nettoyer la ville.
Quel est le candidat ou la candidate dont vous vous sentez le plus proche ou le moins éloigné ?
Bah, mes candidats dans les arrondissements,
entendu.
Cédric Allemand dans le 11e, Benjamin Djian dans le centre, Hélène Peskin dans le 5e. Non, aucun en particulier, j'ai rien contre aucun en général non plus. Moi, j'ai décidé de me présenter parce que je considère qu'Anne Hidalgo est une mauvaise maire de Paris. Je pense qu'elle a failli sur la question des finances publiques, de la propreté, de la sécurité. Après, je ne distribue pas des bons points, des mauvais points. Ils ont tous des choses positives à proposer, des choses négatives à proposer aussi.
Rachida Dati remonte, elle est une surprise heureuse pour la droite. Elle est désormais deuxième derrière Anne Hidalgo. Est-ce que ça ne pourrait pas être elle qui crée la surprise ?
Alors vous savez, dans les années 80, il y a un très bon publicitaire qui d'ailleurs travaillait avec Bertrand Delanoë, qui à l'époque travaillait dans la communication, qui avait eu ce slogan « Au secours, la droite revient ». Eh bien, au secours, la droite revient à Paris. Et oui, effectivement, Rachida Dati, sans proposer grand-chose d'ailleurs, mais simplement en étant dans la surenchère vis-à-vis de la maire sortante, enfin, capte les colères. Mais je pense qu'il ne faut pas simplement capter les colères, il faut aussi proposer des choses. Proposer des choses pour amener en matière de logement, de propreté, de sécurité. Elle, en fait, elle mène une sorte de campagne trumpienne dans laquelle elle hurle et elle vocifère. Elle prend la colère de cette manière-là, mais il faut aller plus loin, il faut proposer. Mais peut-être que les Parisiens décideront de voter pour elle. Mais moi, je ne supporte pas l'idée qu'on nous confisque l'élection entre d'un côté Rachida Dati, de l'autre côté Anne Hidalgo, alors que la majorité des gens veulent une voix médiane qui correspond en fait à quelque chose de plus modéré.
Quel regard vous portez sur les grandes propositions de vos concurrents? Par exemple, déplacer la gare de l'Est pour la mettre en Seine-Saint-Denis, comme le propose Benjamin Griveaux.
Alors, vous savez, je préfère toujours que les gens aient des propositions plutôt qu'ils n'aient pas d'idées. Alors, moi, je me suis fait beaucoup voler des idées depuis le début. Là, je voyais récemment qu'Anne Hidalgo avait proposé de doubler ou tripler les amendes pour ceux qui ne respectent pas l'espace public. C'est quelque chose que j'avais proposé il y a un an. Et ça, c'est très bien. En revanche, certaines propositions sont un peu farfelues. Je disais, par exemple, que Cédric Villani voulait que maintenant les Eurostars, qu'il y a les trains qui arrivent de Londres ou les Thalys qui arrivent de Bruxelles, arrivent en dehors de Paris. Je pense que c'est pas une bonne idée. Quand on arrive à Londres, on est très content d'arriver à Saint-Pancras, au cœur de la ville. Et de la même manière, je pense qu'il y a d'autres priorités que de transformer la gare de l'Est en Central Park. Moi, j'adore les arbres. En revanche, en matière de jardin, je préfère le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, le Luxembourg et les buttes Chaumont.
Je voudrais qu'on parle un peu du président de la République que vous connaissez bien, Gaspard Ganser. Vous êtes copain de promo de l'ENA.
Bac à sable, mais de promo, voilà. C'est venu un peu plus tard, notre rencontre.
Aujourd'hui, le niveau d'impopularité du président de la République est très élevé. Près de 2 Français sur 3, 64%.
Mais vous savez, ça aurait fait rêver François Hollande, ce genre de score, parce qu'il était à la moitié de ça.
C'est peut-être...
Je vous laisse terminer, allez-y.
64% donc jugent que Emmanuel Macron est un mauvais président. C'est un sondage publié jeudi dernier. Que se passe-t-il? Est-ce que le reproche qu'on fait beaucoup à Emmanuel Macron, c'est de manquer d'empathie? Vous qui le connaissez bien, est-ce que effectivement c'est une de ses failles?
Je crois que dans le cadre privé, de quelqu'un de sympathique et de chaleureux, mais malheureusement dans l'exercice du pouvoir, il est sous pression et peut-être qu'il n'arrive pas à montrer la meilleure part de lui-même. Moi, j'ai pas de conseil à lui donner. C'est lui le président de la République. En revanche, je sais que s'il est davantage.
Pourtant, vous avez à un moment donné été payé pour donner des conseils au président de la République.
Oui. D'ailleurs, j'ai pas toujours été très bon. Parfois, oui. Parfois, très mauvais. Mais si je devais lui donner un seul conseil, qui est un conseil d'ami et pas un conseil de conseiller, c'est d'être lui-même et chercher peut-être à être davantage rassembleur que clivant, parce que notre pays a besoin de concorde, de rassemblement, d'unité, et surtout pas de clivage et de déchirement. Et je trouve que notre pays est profondément fracturé à l'intérieur des villes, entre les villes et les campagnes. Et c'est de ça dont on souffre, et ça me fait parfois assez peur, je dois vous le dire.
Vous l'appelez, vous l'invitez à être lui-même, ça veut dire que tel qu'on le voit, il n'est pas lui-même?
Je crois qu'on ne sait jamais toute la personnalité de quelqu'un, et je suis pas son psychanalyste, fort heureusement. D'ailleurs, ils sont rares, les hommes politiques qui font des psychanalyses. Peut-être qu'ils auraient davantage besoin. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a de la chaleur humaine, de l'intelligence et de la spontanéité, et que peut-être, comme d'autres politiques, il est tenté de jouer un rôle, ou en tout cas de se prendre pour quelqu'un d'autre. S'il était tout simplement lui-même, je pense que ça serait très bien.
Pour en revenir au sondage, sa cote descend chez les sympathisants de gauche, mais elle monte chez ceux de droite. Est-ce que ça n'est pas la preuve que ce clivage gauche-droite qu'Emmanuel Macron voulait faire tomber, finalement, n'est pas soluble dans le macronisme?
En tout cas, il est en train de prouver, notamment à l'occasion de ces élections municipales, que le clivage droite-gauche existe plus qu'il n'aurait le souhaité. Et je pense qu'il a sous-estimé le fait que dans ce pays, il y a des fractures, il y a des clivages, que peut-être les grandes familles politiques que sont la droite et la gauche n'embrassent pas la totalité de la complexité du monde politique. En revanche, il y a toujours des clivages sur les questions écologiques, sur les questions européennes, sur les questions économiques. Ceux qui sont attachés à la lutte contre les inégalités, à la solidarité, à la redistribution des richesses, aujourd'hui, peut-être qu'ils se sentent de gauche, et ils se sentent surtout très cocus d'avoir voté pour le président de la République en 2017.
Un malaise est apparu, un malaise assez important chez une partie des députés de La République En Marche après le vote désormais fameux sur le congé de deuil pour les parents qui perdent un enfant. L'appel à la nécessaire humanité par Emmanuel Macron a été mal perçu par un certain nombre d'entre eux. Est-ce que vous voyez monter quelque chose qui, d'ailleurs, Emmanuel Macron voit les députés demain,